Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos habituelles lectures en liberté pour terminer ce soir le roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Le monde est plein de mâchoires. Je me suis dirigé vers la chambre. C'était une joie de retrouver mon entassement de livres, mes papiers, mon merveilleux divan-lit. Même si je ne m'étais absenté qu'une nuit, j'avais l'impression de les avoir quittés depuis trop longtemps, d'avoir délaissé l'unique lieu où je respire vraiment, d'avoir déserté ma solitude, ce point que je conçois comme une étoile. J'étais ivre et lourd. J'avais mal à la tête. Mais c'était un plaisir de vivre, d'avoir de la nuit dans le sang et de vivre en riant. Oui, j'avais tant de nuit en moi que je me sentais comme Don Juan, dont la soif immense à la fois le tourmente et le protège. Les êtres sont presque tous fossilisés, pas lui. Il y en a qui demandent des signes, d'autres recherche la sagesse. Quant à moi, je me laisse entraîner par un mouvement qui ne s'ordonne à aucune raison. Est-ce la folie? Je ne crois pas. Même au cœur de l'ivresse, lorsque tout se brouille, lorsque mon esprit s'efface, je distingue une lueur. C'est une ligne discrète, mais elle brille suffisamment pour qu'un sentier s'y creuse. Alors peu importe qu'il soit impossible de recevoir ce qui se donne ainsi, peu importe que cette chance ne s'exprime qu'à travers une lumière qui se dérobe. En demeurant allongé dans ma chambre, il m'a toujours semblé que je m'accordais à cette vérité dont on ne peut témoigner que par le silence. Ce récit en porte-t-il la trace? Je place ici mon espérance. J'avais chaud. Je me suis levé pour ouvrir la baie vitrée. Tout de suite, avec la fraîcheur du dehors, le sang se modifie. Voir le ciel s'éclaircir lorsqu'on a festoyé appelle la disparition. On pourrait s'évanouir comme une buée. L'oubli du soir vous grise, mais celui du matin espère une délivrance. Je fixais ainsi le ciel, dont les couches de gris semblaient ne pas vouloir se dissiper. Dans une telle épaisseur, je reconnaissais ma tête serrée par la migraine. Quelques fenêtres étaient allumées dans l'immeuble d'en face. Le matin tremble ainsi dans une lumière indécise. Le feuillage des platanes attend sa part de lueur et pour l'instant, les nuances dorment. J'attendais que les feralgans fassent de l'effet. Peut-être faudrait-il en prendre un autre. Le pharmacien, chaque fois, insistait un comprimé seulement tous les 6 heures. Mais je m'en foutais. Ce n'est pas lui qui avait mal au crâne. Si ça ne passait pas, je prendrais un nouvel efferalgan, puis je me ferais un café, et quand ma nausée se serait un peu calmée dans l'après-midi, j'irais au McDo de la porte de Bagnolet dévorer un Big Mac, comme j'en ai l'habitude dans ce cas précis. profitant de la baie ouverte, les avant-bras posés sur la rambarde du balcon, j'essayais de respirer à plein poumon l'air du jardin et imaginais avec plaisir mon visage enfoui dans la fraîcheur des acacias. Et voici que, depuis mon quatrième étage, j'aperçus, discutant en bas avec une locataire, Madame Figaud. Son visage était levé vers moi, sans gêne. Elle examinait ma bite. J'ai eu l'impression qu'elle me faisait signe. La cour intérieure était silencieuse. On entendait le piaillement léger d'un oiseau venu d'un fourré. Sans presque élever la voix, Madame Figaud a dit « Les clés !» Je suis allé les chercher dans l'entrée et toujours à poil. J'étais conscient, mais ralenti, paralysé par l'ivresse, je les ai lancés par la fenêtre. J'avais visé la pelouse afin qu'elle ne lui tombe pas dessus. Elles ont atterri exactement à l'endroit où Madame Figaud m'avait trouvé ce matin. Elle les a ramassées et les a jointes au trousseau qu'elle portait autour du cou. La femme avec qui elle parlait, une vieille dame qui traînait un cabas, me regardait, bouche bée. J'ai baissé les volets et me suis allongé. L'écran était éteint, mais il diffusait dans la nuit une lueur opaque qui donnait un relief lunaire aux volutes de la chambre. Même si l'on n'allumait pas le téléviseur, il y avait toujours une image. Une image vide. Une surface où se concentre l'absence. La nuit la plus profonde se laisse percer sans l'aide d'aucune lumière, sinon celle qui anime le ciel noirci. Même les ténèbres scintillent. Mais peut-on crever une image vide ? Il m'est arrivé de rêver que le ciel avait disparu, qu'il s'était résorbé en un point qui s'efface. Que le ciel ne fût qu'un point, rien ne paraît plus insupportable. C'est pourtant ce que l'on éprouve face à un écran vide. On s'écoule comme de la peinture noire dans l'image qui nous absorbe. J'avais trop mal à la tête pour visionner un film, alors j'ai regardé l'écran vide. Ou plutôt c'est lui qui m'a regardé. Sa présence remplissait la chambre. Elle jetait des reflets sur ce minuscule espace que j'avais réussi à élaborer entre le mur, contre lequel ma tête reposait, et le téléviseur. C'est dans cette position immobile, allongé sur ma couchette à la manière d'un mort, protégé d'un côté par la rangée de papyrus et de l'autre par l'hirondelle et le coffre aux manuscrits, que j'avais l'habitude d'entrer dans ce vertige où les noms me consacrent. J'hésite à le dire tant j'ai veillé sur le secret d'une telle disposition. Pourtant, il le faut. Pourquoi ai-je entrepris cette chronique d'une période de ma vie si ce n'est pour vous confier des mystères ? Je suis entraîné à vivre, depuis plusieurs années, dans plusieurs dimensions à la fois. Et si la vie de l'obsessionnel éméché peut faire de moi un personnage de roman éventuellement comique, s'y superpose une autre vie tout aussi solitaire mais plus mystique, où la recherche qui m'anime a décidé de figures moins pittoresques. La nuit, quand j'atteins le calme, une méditation s'enclenche. Préparé par le visionnage intensif des films à n'importe quel moment de la journée ou du soir, mes pensées, d'un seul coup, s'ajustent. En elles, une souplesse se libère. Voici qu'un verger se compose, d'abord dans ma tête, ensuite dans l'espace entier de la chambre, où se mettent à flotter l'un après l'autre les noms que j'ai tracés derrière moi au-dessus de ma tête sur le mur que l'oreiller dissimule. Ces noms s'élèvent dans l'air, on dirait qu'ils dansent. Ils se rencontrent, En voici un troisième qui les rejoint, un triangle se forme. Je jubile. C'est ainsi que ça a lieu. Qu'il soit midi, 21h ou 4h du matin, je dis les noms, ils se combinent, le temps s'ouvre. Avec ma gueule de bois, les noms ne risquaient pas de venir. J'ai attendu que les feralgans fassent effet, j'ai fermé les yeux. Mais je savais déjà que je ne m'endormirais pas. Des images de la nuit me revenaient. Je souriais en pensant à ma rencontre avec Léna, et malgré le mal de crâne, je savourais. C'était bon d'avoir rencontré une femme comme elle. Depuis combien de temps est-ce que ça ne m'était plus arrivé? En fermant les yeux, je voyais apparaître son immense corps. J'entendais sa voix et, d'une manière bouleversante, je ressentais la douceur de ses hanches, de ses lèvres, de son prénom qui portait avec lui tout un monde lointain, celui de l'Est et des automnes étincelants, celui aussi des animaux sauvages, de la chasse, du sacrifice. Ça avait été une nuit folle. Et comme d'habitude, à cause de l'alcool, j'en avais oublié les pans entiers. Mais certains moments surgissaient avec une précision ardente. Et voici que les yeux ouverts, je les revivais. Je voyais Isabelle Huppert nous dire au revoir et monter dans une voiture dont le chauffeur lui tenait la porte. Je voyais aussi Macron serrer la main de Pointel et celui-ci s'éloigner sur sa béquille, le téléphone vissé à l'oreille. Je nous voyais, Léna et moi, en train de fumer une cigarette. Il y avait Saba qui reniflait le caniveau en remuant la queue. Il y avait une montagne de coquilles d'huîtres vides sur le trottoir. Le téléphone de Léna s'était mis à sonner. Elle m'avait dit « Je ne veux plus parler à ce type !» Puis elle me l'avait passé. C'était une voix masculine. « Qui êtes-vous ?» J'ai répondu « Michael Cimino. » « Qui ça ?»« Cimino. » Il s'est énervé. « Mais t'es qui, toi ? Passe-moi Léna !»« C'est impossible !» Comment ça ? Parfois les choses ne deviennent plus possibles, on se parlait et on ne se parle plus. C'est elle qui t'a dit ça ? Elle ne m'a rien dit, mais j'ai compris. Il a hurlé « Passe-la-moi, connard !» J'ai raccroché et rendu le téléphone à Léna. C'est fait. Le téléphone a sonné de nouveau, mais Léna l'a éteint. Nous avons couru vers la place de la Bastille. Léna a arrêté un taxi. Saba a bondi à l'intérieur. Le chauffeur a protesté. « Pas de chien !» Mais Léna lui a promis de l'argent. Je l'entends encore donner l'adresse. « Chez Orphée, » dit-elle. Puis elle précise en regardant son téléphone. « 7 rue Fontaine, près de Pigalle. » Et nous voilà partis. Le nom d'Orphée a glissé dans ma tête comme un présage. Il me semblait que je pénétrais moi aussi sous la terre. Cette nuit, nous allions chez les morts. Et voici que ce nom tournoyait au-dessus de mon divan-lit, lui qui les contient tous en allume d'autres qui se mettent à scintiller dans la nuit comme de petites lumières.
Vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café.
Ah, mon vainqueur, il n'est pas clair. Au pays des mers méduliennes.
dans la tire qui mène à Hollywood. Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au texte de Yannick Hennel pour une dernière lecture de Tiens ferme ta couronne. Que s'est-il passé là-bas ? J'ai quelques souvenirs, des flashs. À l'entrée de la boîte, il y a foule des types, des filles, très bruyants avec des bières qui débordent sur la chaussée. Je crois voir dans cette foule les deux moustachus, mais Léna m'entraîne jusqu'à une porte dérobée. Un videur est assis sur une chaise de bar. C'est là, chez Orphée. File d'attente, je titube. Un type m'aborde. En disant me connaître, il dit qu'il est le maire de la nuit et que je lui ai dédicacé un de mes romans lors d'une signature dans une librairie il y a quelques années. On entre grâce à lui. Le bar est tout en longueur. Je commande des vodka gingembre. On boit, on danse. Je ne sais plus trop si l'on s'embrasse. Je crois que oui. Ça tourbillonne entre le bar et le fumoir. La piste de danse est toute petite. Le corps de Léna ondule comme un fou rire. On boit encore et encore, ça ne s'arrête plus. Il y a un blanc, un trou de plusieurs heures. Puis je me vois dans la rue, bras dessous, avec Léna. Je regarde mon téléphone, il est 2h20. Je vois encore l'heure avec exactitude. On arrive au musée de la chasse et de la nature. On traverse une cour intérieure pavée. Il y a une porte vitrée. Léna tourne la clé dans la serrure. Nous entrons. Tout est plongé dans le noir. Des ombres courent le long des murs comme dans une grotte. Une forme s'agite avec des ailes noires. On dirait qu'elle vole au-dessus de nos têtes. La pénombre découpe des reliefs où les ailes grandissent. Je crois voir une chauve-souris, me raidit et baisse la tête, bute contre une marche et m'étale sur le sol de l'entrée où un miroir me renvoie une image grotesque. Cette chute me fait du bien. Je dessoule. Avec la lumière de mon téléphone, je distingue des marches, une rampe. Je me relève et dans l'escalier, par une petite verrière, tourne des étoiles qui scintillent dans une lueur bleu-noir. Je reprends mes esprits, mais j'ai du mal à monter, les reflets vacillent, je dois m'accrocher à la rampe. Dans ce halo bleuté flottent des têtes de cerfs, la hure d'un sanglier dont les yeux jaunes me fixent et des mâchoires accrochées le long des murs. Léna est en haut, tout au bout de la galerie, elle me fait signe de la suivre et de nouveau je la perds de vue. Un ours blanc me contemple, dressé sur ses pattes arrière, immense, la gueule ouverte, les griffes tendues vers moi, et partout des trophées sur les murs, des têtes de biche, des massacres, des regards fixes qui brillent dans l'obscurité comme des perles. Je prends un couloir sur la droite et titube dans une obscurité où du verre glisse dans le noir avec des battements d'ailes. Une odeur de lierre fraîche, mousseuse, allège la pénombre. J'avance les bras tendus devant moi comme un somnambule, et soudain, Ce sont des paons, des renards, des loups, des lynx, une infinité de bêtes qui parcourent les couloirs. J'accélère et voici qu'avec le miroitement des vitrines, je découvre, campé au coin d'une salle, prêt à me déchiqueter, un léopard des neiges, une panthère, un rhinocéros, des crocodiles. J'avais largué les amarres. L'ivresse court devant vous et en riant, vous courez pour la rattraper. Les ténèbres galopent à travers les forêts. Depuis cette nuit, j'évolue en compagnie des fauves et mon vertige est si large qu'en chassant au bord des précipices, la bave aux lèvres, je m'apprête à bondir sur ma proie. Je saute de la falaise en même temps que celle-ci et tombe dans le vide comme dans un rêve éveillé. Léna avait disparu. Elle m'avait parlé d'un appartement de fonction qu'elle occupait tout en haut, sous les toits. Je trouvais fou qu'elle habitât ici, au milieu des animaux. Chez Orphée, elle m'avait raconté qu'il lui arrivait de se promener la nuit avec une bougie dans les couloirs du musée. Je l'imaginais parcourant les étages d'une démarche lente, comme dans un songe, avec la pâleur d'une gravida. Depuis cette nuit avec Léna, chaque instant est devenu pour moi un éveil ou un endormissement. C'est la nuit, c'est le jour, n'importe quand. Mais sans doute devrais-je remonter plus loin encore. Depuis le tout début de cette histoire, je ne sais si mes yeux sont ouverts ou fermés. Ai-je rêvé Siminaux, New York, la Statue de la Liberté? Ai-je vraiment vu ces films où des cerfs m'offrent leur tête? Et Tot, Anouk, Pointel, Isabelle Huppert, existe-t-il vraiment? Je suis couché sur mon divan-lit près de la porte de Bagnolet, entouré de mes fétiches, et en même temps, je suis avec Léna, évoluant au ralenti parmi les salles du musée de la chasse. En même temps, j'approfondis une expérience millénaire et avance à travers un labyrinthe. Je m'approche d'une paroi. Je m'en éloigne, je veux transpercer ce voile où des images recouvrent mon nom. Quelque chose échappera toujours aux humains et n'en finira jamais de brûler sans nous. Nos désirs viennent d'une nuit lointaine. J'essaie de comprendre. En pénétrant avec Léna dans le musée de la chasse et de la nature, une pensée m'accompagnait. Si j'essaie aujourd'hui de la préciser, je découvre à quel point elle me protégeait. Comment nommer cette pensée? Oui, depuis le début, je crois en mon étoile. Tout au long de ce périple où ma solitude n'a fait que s'approfondir, malgré les erreurs, malgré les mauvais choix, j'ai été à chaque instant cette étoile. Je me suis figuré l'être. Moi qui n'a jamais cessé de croire à l'existence d'une étincelle, d'une poussière divine dans la folie, même si la folie ne connaît pas de mots pour la terreur et ne reconnaît ni la joie ni la pitié. Léna apparaissait dans l'embrasure d'une porte, puis aussitôt disparaissait. En entrant dans une pièce rouge sombre où un sanglier me contemplait, sa défense violemment tournée vers moi, je trouvais son blouson en hermine abandonné sur le sol. Puis entre deux portes, sa jupe, plus loin encore, son chemisier. Allait-elle m'attirer vers la source ultime, vers ce lac ajusté au cœur du bois? Je n'en finissais pas de traverser des chambres, de me perdre dans les couloirs de ce musée où les animaux ne faisaient que revenir, l'ours blanc, les têtes de cerf, de sanglier, à chacun de mes passages, ouvraient leurs mâchoires. En avançant dans ces ténèbres pris d'angoisse, ivre, titubant, je pensais à une phrase qui figure dans mon cahier spécial, une phrase que j'avais sur moi, roulée à l'intérieur de mon manteau, et qui venait de Bernard Lamarche-Vadel, un ami écrivain qui s'était suicidé il y a une dizaine d'années, dont le nom m'accompagnait depuis le début de cette aventure, et en qui, parce qu'il était lucide, parce qu'il avait deviné un bûcher au cœur de l'espèce humaine, je voyais un grand prêtre, peut-être même un sorcier. Le monde est plein de mâchoires, disait cette phrase. Je me suis mis à la répéter sans doute pour conjurer le malheur où cette nuit et ses ombres me jetaient. Le monde est plein de mâchoires, disais-je. Et je commençais à rire. Le monde est plein de mâchoires. N'est-ce pas une vérité incontestable ? Les phrases qu'on répète sont comme des prières lancées contre un mur. On croit qu'elles s'y écrasent, mais il arrive qu'elles transpercent le mur. Il arrive que le visible atteigne l'invisible et qu'il coïncide. Et voici que j'entendais la voix de Léna maintenant. Est-ce qu'elle m'indiquait le chemin ? J'avais l'impression qu'elle chantonnait, ça s'envolait. Je n'entendais pas bien. Mais ça ressemblait à l'air de Don Giovanni et Aperto a tutti quanti viva la libertà. C'est ouvert à tous, vive la liberté. Je débouchais enfin dans un salon où semblait flotter l'odeur de l'orage. L'espace était large, tout en boiserie, un peu de lumière venait d'une fenêtre ouverte devant laquelle se balançait un rideau. Un grand cerf au pelage roux me fixait en silence. Ses bois se dressaient au-dessus de sa tête comme une immense couronne dont les rameaux s'enchevêtraient. On avait l'impression qu'il portait ses racines sur la tête et qu'entre ses perches, ses empaumures et ses ondouillés se déployait un arbre séphirotique, semblable à celui dont les branches dessinées au feutre rouge brillent sur le mur de ma chambre, juste derrière ma tête. La voix de Léna m'a invité à entrer. Dans la pénombre, j'ai distingué d'abord ses yeux, puis ses hanches, sa chevelure brune, la blancheur de ses courbes. De petites lueurs bleues brillaient au-dessus de ses seins. Elle était allongée, nue, sur le canapé. Voilà, nous avons donc terminé ce roman de Yannick Haenel, « Tiens ferme ta couronne », dont vous pourrez vous-même lire la fin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.